don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家，
正忙着录制节目，在聊天。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Antoine Dulster, mais aussi Clémence Alezar, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Dali Yaya. On poursuit notre série consacrée aux énergies. Énergie, le grand mix, c'est notre série cette semaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux renouvelables, l'enfer vert de la transition, qu'on aurait pu aussi intituler la COP 21 et après, quid du renouvelable.
Je vais donner maintenant la parole à Hakima Al-Kaïté, qui est la représentante du Maroc, pays qui nous accueillera à la fin de 2016. Hakima.
La 21e édition de la conférence des parties prend fin aujourd'hui. Ce n'est pas la fin de notre histoire commune. C'est une nouvelle étape qui va nous amener ensemble pour rendre opérationnel l'accord de Paris, et cela démarrera à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. La COP22 se veut une COP de l'action, de l'innovation et de partage des solutions.
Le complexe, c'est pratiquement 3100 hectares à peu près. C'est pas trop loin de la taille de Paris Intramuros. Et c'est vraiment énorme. Vous le remarquez là en roulant, on va rouler peut-être une heure pour faire le tour du complexe.
Ces miroirs réfléchissent les rayons de soleil et se concentrent au niveau de ce tube pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur. Cette vapeur permet d'entraîner une turbine qui produit de l'électricité.
Oui, après l'adoption de l'accord de Paris sur le climat à la COP21, Hakima El-Haïté, ministre de l'Environnement du Maroc, a pris la parole, saluant le texte, donnant rendez-vous à Marrakech pour la COP22, rappelant les efforts aussi déjà engagés par son propre pays. D'ailleurs, ces efforts, on les a vus du côté de Ouarzazate, justement, on l'entendait avec cette gigantesque centrale thermosolaire baptisée Nour, lumière en arabe. La ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, s'est d'ailleurs rendue sur place la semaine dernière pour son inauguration sur invitation du roi Mohamed VI. Elle a salué les efforts du royaume chérifien tout en rappelant le soutien des entreprises françaises au déploiement des énergies renouvelables au Maroc. Ce projet s'inscrit dans un vaste plan très ambitieux lancé en 2009 qui devrait permettre au pays d'être fourni en moitié d'énergies renouvelables, éolien, solaire, hydraulique d'ici 2030. Après le succès de la COP21, l'heure de la transition énergétique en acte est-elle arrivée? Bien au-delà des frontières du royaume chérifien, cette question de la transition des énergies vertes est au cœur des grandes manœuvres au niveau mondial. Décarboner l'énergie des pays du Nord, développer les pays du Sud en misant sur ce renouvelable, voilà le défi dans lequel les géants du secteur sont engagés. Ces grands groupes internationaux semblent d'ailleurs déjà avoir intégré cette transition énergétique dans leur fonctionnement industriel. Du cadre légal issu des grandes négociations internationales aux logiques plus strictement économiques, typiques des grands consortiums internationaux, comment se déroule au quotidien cette nouvelle bataille mondiale de l'énergie? En Europe, l'affaire est aussi de la plus haute importance pour la Commission qui dévoilera demain un paquet sur la sécurité énergétique. Quelle place pour les énergies vertes dans cet ensemble de mesures? Comment s'organise dans toute l'Europe la transition énergétique? Le fameux paquet énergie-climat signé en 2007 et puis révisé en 2014 tiendra-t-il ses objectifs pour 2020? Voilà un certain nombre de questions qui seront les nôtres. On ira également du côté de l'Afrique du Sud, pays encore largement tributaire d'une énergie hautement carbonée, le charbon notamment, mais qui s'impose justement comme un laboratoire de la transition énergétique. On retrouvera tout à l'heure Olivier Grandvoinet depuis Johannesburg. Pour évoquer toutes ces questions, l'enfer vert de la transition, on a deux invité avec nous en plateau. D'abord, Cédric Philibert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste à la division des énergies renouvelables de l'Agence internationale de l'énergie. Et puis à vos côtés, François Bafoual, bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche au CNRS, série Sciences Po. Alors, François Bafoual, je vais commencer avec vous. Il n'existe pas encore de politique énergétique commune en Europe. C'est d'autant plus étonnant quand on pense qu'à l'origine du projet européen, on a quand même quelque chose qui s'appelle la communauté économique du charbon et de l'acier, 1952, qui rassemblait notamment la France et l'Allemagne. L'Europe s'est donc au départ réunie autour de considérations énergétiques. Et pourtant, il n'y a toujours pas véritablement d'Europe de l'énergie. La souveraineté, pour le moment, reste la règle en la matière. Et ça pourrait changer. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, disait à ce propos, présentait donc l'Europe de l'énergie comme le projet européen le plus ambitieux dans le domaine énergétique depuis la création de la communauté du charbon et de l'acier. Demain, l'Union européenne va dévoiler un paquet sur la sécurité énergétique. Le pilier, si j'ai bien compris, ça va être l'obligation pour les États membres de fournir à son voisin, s'il a des besoins en énergie. C'est le principe de de solidarité énergétique. Vous pouvez nous présenter un peu ce qu'on va retrouver dans cette solidarité énergétique?
D'accord. Que l'Union européenne n'ait pas une seule politique, c'est un fait. Est-ce qu'elle n'a pas de politique? C'en est une autre. Elle a une politique. Seulement, comme vous l'avez dit, effectivement, les États sont souverains et en matière énergétique, en partie, décident de leur politique.
Oui, si vous voulez dire que sa politique, c'est la libre concurrence, soit, mais ça reste là.
Non, pas seulement. La Commission, quand même, et on va venir au paquet pour de demain, la Commission joue sur les réseaux. C'est elle qui propose de, en matière de renouvelables, puisqu'on parle des renouvelables, c'est elle qui essaye de négocier avec les partenaires difficiles que sont la Russie d'un côté, le Maghreb et notamment l'Algérie de l'autre. Donc on ne peut pas dire que l'Union européenne n'a pas de politique. Mais il est un fait que dans les approvisionnements, effectivement, chaque pays est souverain. Maintenant, en ce qui concerne l'Union pour l'énergie et ce fameux paquet qui va être énoncé demain et qui devra être avalisé par tous les États membres. Ensuite, pour rentrer évidemment en acte. Il y a quatre points qui sont importants. Le premier, comme vous le disiez, c'est qu'effectivement, ils vont être obligés, donc c'est bien qu'elle a une politique et qu'elle a quand même des moyens de contrainte, les États vont être obligés de fournir effectivement en électricité leurs voisins en cas de pénurie. Ça, c'est un point extrêmement important. Il y avait un énorme conflit entre la France et l'Espagne, la France n'acceptant pas que l'Espagne et le Portugal reversent son énergie.
Ça veut dire, François Baffoy, avant de passer au deuxième point, qu'il faut que le réseau énergétique européen soit intégré pour pouvoir
C'est ça l'enjeu. Ce que disait Derdevet dans son rapport au président de la République remis il y a un an, c'est qu'effectivement, on a fait les locomotives, on a fait les wagons, mais on s'est pas posé la question des rails. Autrement dit, on a décidé des renouvelables, et je pense qu'on reviendra effectivement sur la question de l'Allemagne, c'est sans centrale. On a décidé des renouvelables, mais on n'a pas fait les réseaux. Or, les renouvelables, c'est intempestif en ce qui concerne effectivement la circulation. Les lieux de production, les lieux de consommation sont différents. Donc, il faut des réseaux. Il faut des réseaux et il faut un véritable marché intégré, intérieur, ce qu'on n'a pas. C'est un fait. D'accord. Mais c'est ça le grand objectif finalement du plan Juncker, c'est d'arriver finalement à créer des réseaux. Et ça me permet d'arriver au deuxième point du paquet énergie, c'est qu'en fait, la Commission maintenant a décidé de 9 grandes régions qui seront le cadre dans lequel effectivement les réseaux et les échanges entre les pays aura lieu. Donc ça, c'est extrêmement important. Le troisième, c'est le renforcement du gaz liquéfié, où seulement 20% des installations sont utilisées. Et dans la grande stratégie qui consiste effectivement à éviter le caractère intempestif de la politique russe, on se souvient de 2009, les coupures, etc., il s'agit de trouver d'autres voies, qu'il s'agisse de la Caspienne, qu'il s'agisse de la Turquie. Donc là, il s'agit de renforcer les capacités en GNL et d'avoir accès...
GNL, c'est le gaz liquéfié. Hein.
Vous avez raison.
Il faut vous préciser, tous les auditeurs sont pas...
Et puis d'avoir accès à l'Australie. Et puis le quatrième point, j'en ai fini, c'est que la Commission, maintenant, a un droit de regard, ce qui est quand même capital compte tenu des conflits qu'il y a eu avec la Hongrie d'un côté, qui avait une relation privilégiée avec la Russie, et la Bulgarie de l'autre. La Commission a maintenant un droit de regard sur les contrats intergouvernementaux et sur le commerce, les contrats commerciaux liés à l'énergie.
Bon, bah là voilà, notre Europe de l'énergie n'était pas encore là, mais elle commence à arriver.
C'est un pas supplémentaire. Il y a quand même eu des pas en 2006-2009.
Et je vous passe la parole, Cédric Philibert, mais à propos justement de ces crises, ces fameuses crises du gaz russe, on se souvient 2006-2009, l'une des choses qui revenait beaucoup, c'est que l'Union européenne aurait peut-être dû être en capacité de négocier le prix du gaz russe pour l'ensemble de ses membres. Jusqu'ici, chacun négocie son prix de son côté. Est-ce qu'il y a des évolutions en la matière ? François Baffoy.
Ah pardon, excusez-moi, je croyais que c'était...
Je lui donne la parole tout de suite,
mon collègue,
François Baffoy.
Non, effectivement, le problème qu'avec la Russie, c'est comme vous le savez, c'est qu'en fait, excusez-moi l'expression, elle le fait à la tête du client. Le prix du baril, elle le vend à, par exemple, la Biélorussie, qui est son grand allié, environ à 150 dollars, quand la Macédoine, c'est à 550.
Est-ce que ça va changer avec le pack
La Pologne, c'est 500 euros. Oui. La France, c'est 400.
Donc ça va changer avec le pack de demain?
Non, puisqu'on n'a pas de moyens de faire pression sur Gazprom.
La souveraineté prime encore sur...
Oui, bien entendu. Je termine juste. Une fois qu'on a dit tout ce que va énoncer le paquet énergie demain, il va se poser la question des coûts. Et là, on rentre dans le sujet, enfin les coûts, le coût de mise en place des réseaux. Et là, c'est considérable.
Cédric Philibert.
La souveraineté reste et va rester fondamentale dans le choix du mix énergétique de chaque pays. Parce que les deux pays au cœur de l'Europe, la France et l'Allemagne, ont des options assez opposées sur la question du nucléaire. Donc il y a un pays qui en veut, l'autre qui n'en veut pas. Il y a un pays qui persiste dans sa politique nucléaire, l'autre qui en sort. Il n'y a pas d'accord possible sur ce point. Donc ces deux pays auront des mix énergétiques électriques différents pendant encore longtemps. Donc là-dessus, il n'y aura pas de politique commune européenne. En revanche, finalement, il y a un point commun dans tous les pays d'Europe. Il y en a même deux. Il y en a un qui s'appelle l'efficacité énergétique et l'autre qui s'appelle les renouvelables. Tous les pays d'Europe sont d'accord pour faire des renouvelables et de l'efficacité énergétique. En plus de nucléaire ou gaz ou charbon en fonction des disponibilités, des options. Avec en même temps, quand même, une autre dimension qui est la dimension des émissions de CO2 du secteur énergétique sur laquelle il y a aussi une volonté commune de réduire ces émissions. Donc, ces trois dimensions, c'est le paquet 3x20 de 2009.
Le paquet énergie-climat.
Qui est un paquet adopté par les chefs d'État avec codécision du Parlement européen sur proposition de la Commission. Donc, c'est pas seulement la Commission, c'est toutes les instances européennes, c'est pas Bruxelles, c'est toutes les capitales qui ont décidé d'une politique qui vise à réduire les émissions de CO2 du secteur énergétique, en s'appuyant principalement sur une amélioration de l'efficacité énergétique et sur le développement des énergies renouvelables. Donc ça, c'est le point commun de la politique européenne, qui donne des résultats, y compris en matière de sécurité énergétique, parce qu'il y a une observation qu'il faut faire, qu'on a rarement faite. Le développement des renouvelables électriques en Europe depuis 2009 a plus que compensé la baisse de la production gazière en Europe. Vous savez qu'on avait le pétrole de la mer du Nord, il est en déclin, maintenant irréversible. Il y a eu des révolutions technologiques qui ont permis de le prolonger. Ce déclin souvent annoncé a été retardé, mais maintenant il est plus qu'entamé, mais il est plus que compensé par le développement des énergies renouvelables.
On va revenir sur les politiques spécifiquement européennes, mais peut-être un mot sur la COP21, Cédric Philibert, et puis j'en profite peut-être pour indiquer à nos auditeurs que vous êtes co-auteur d'un rapport sur les énergies renouvelables. Décembre dernier, le monde se dote d'un nouvel accord sur le climat. Parmi les enjeux, c'est quand même accélérer le développement des énergies renouvelables. Est-ce que le nouveau cadre trouvé à Paris semble de nature à améliorer la situation ? Rappelons quand même une chose, c'est qu'on a beaucoup critiqué l'absence, le défaut du terme énergie même dans le texte. Et je ne parle même pas d'énergie renouvelable.
Oui, c'est un texte, je sais, ça étonne beaucoup les gens. En fait, c'est un texte qui parle des émissions de gaz à effet de serre. Plus des deux tiers des émissions des gaz à effet de serre, ça vient du secteur de l'énergie, ça vient de la combustion de combustibles fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz. Donc, il n'est pas possible de réduire les émissions sans modifier en profondeur les politiques énergétiques. Tout le monde le sait, tous les négociateurs le savent pertinemment, mais la négociation...
Mais on l'a pas posé sur le papier.
Parce que la négociation porte sur les émissions de gaz à effet de serre et non pas directement sur les politiques énergétiques. Mais au fond, ça revient au même. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a permis l'accord de Paris ? Plusieurs choses. L'habileté de la diplomatie française. Le fait que, depuis Copenhague, on s'est habitué à ce qui a été proposé à Copenhague et qui, sur le début, a été très mal vécu, mais qui, finalement, a été accepté comme étant le meilleur de ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire une démarche du bas vers le haut, où chaque pays soumet ce qu'il pense pouvoir faire, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui a permis l'accord de Paris ? Le fait que le coût des renouvelables s'est effondré depuis. Et c'est un effet majeur, parce que tous les pays, y compris les pays en développement qui était arc-bouté sur la nécessité d'augmenter leur consommation d'énergie, ou du moins ce qu'ils perçoivent comme une nécessité, d'augmenter leur consommation d'énergie pour répondre aux besoins d'une population croissante et d'une économie qui se développe, eh bien ils ont perçu que depuis quelques années, les renouvelables offrent une possibilité réelle et économiquement acceptable pour répondre à ce besoin d'énergie. Donc ça change les choses,
la conversation. François Baffoil, sur ce décalage entre ce qu'il y a dans le texte et ce qu'il y a dans la réalité. Parce que moi, c'est une des choses qui m'a frappé, et je vous laisse poursuivre, c'est que on n'a pas ces renouvelables à l'intérieur du texte, et en même temps, quand on regarde ce qui s'est passé durant la COP21, c'était au cœur de l'événement. L'Alliance internationale pour le solaire lancée par Narendra Modi, le Premier ministre indien, la mission innovation permettant un doublement des investissements avec, vous avez vu tous ces milliardaires, et notamment Bill Gates qui avait fait le déplacement, l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable de la Banque africaine pour le développement qui vise 10 gigawatts de nouvelles productions en 2020 et même 300 gigawatts à l'horizon 2030. Donc, ces investissements, ces efforts dans les énergies renouvelables, ils étaient au cœur de la négociation, mais ils sont pas dans le texte.
Moi, je vais essayer de...
Quelque chose de troublant, là.
Tout à fait. Mais je vais répondre en reprenant ce que mon collègue vient de dire, et ce qui me paraît l'un des points absolument fondamentaux, c'est-à-dire l'efficacité énergétique. Formidable, la COP, on ne peut qu'applaudir, et vous l'avez dit, la diplomatie française, les engagements. Le plus important, il y a eu des engagements. Il y a eu des engagements. La question est, comment les faire respecter? Et du coup, ça me ramène à la question européenne, des engagements européens, et ça reprend la première remarque que vous disiez, il n'y a pas de politique européenne. Si, il y a des engagements, vous l'avez dit, il y a les 3x20, et puis maintenant, on est monté à 2030, 40% de réduction des gaz à effet de serre, et il était écrit que ce serait 30% l'efficacité énergétique. On est descendu à 27. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des groupes de pression qui n'ont aucun intérêt, effectivement, à mettre en œuvre cette politique de renouvelables pour l'efficacité énergétique, dont je rappelle que 70% est couvert par 1, l'habitat, 2, les transports. Le problème, c'est que la directive pour l'efficacité énergétique a été très peu intégrée dans les textes par les États membres. Et donc, au bout du compte, les résultats sont très médiocres, très médiocres. La France est dans une situation très médiocre. Voilà.
On va revenir sur l'Europe dans un instant. On y vient tout de suite, François Baffol. Répondez-moi sur ce décalage entre ce qu'il y a dans le texte et ce qu'il y a finalement sur le terrain.
Je vous ai répondu, c'est que c'est très beau les engagements et on doit applaudir, etc. Mais il n'y a pas de capacité contraignante conférée aux organisations internationales, de la même façon que l'Union européenne n'a pas un pouvoir contraignant en ce qui concerne... Enfin, des pouvoirs contraignants, effectivement, elle peut porter devant la Cour, mais etc. Elle ne peut pas, en l'état, imposer en matière énergétique, et vous l'avez dit, c'est une question de souveraineté, ce sont des objectifs, ils sont partagés, ils sont décidés, chaque État les maille en œuvre.
Alors, l'Union européenne, justement, Miguel Arias Cañete, le commissaire européen de l'Action pour le climat et l'énergie, écoutez ce qu'il disait en novembre dernier.
Dans le cadre de l'Union de l'énergie, dans le cadre de notre système de gouvernance, nous avons un rapport semestriel qui analyse la situation des pays par rapport à l'objectif communautaire que nous nous sommes fixés. La Commission met en avant les problèmes et fait des recommandations et met en place un cadre juridique pour harmoniser les énergies renouvelables au niveau européen. Il y aura d'ailleurs l'année prochaine une nouvelle législation importante pour faciliter le développement des énergies renouvelables.
Voilà, une nouvelle législation pour améliorer le développement des énergies renouvelables. Cédric Philibert, dernier rapport de l'Agence de l'ONU pour l'environnement, l'année 2015 a vu ses investissements dans les énergies renouvelables baisser de 53% par rapport à l'année précédente. Et dans ce paysage, visiblement, l'Union européenne n'est pas une très bonne élève. Je ne parle même pas de la France, où on a vu des investissements baisser, je crois, de l'ordre de plus de 30%, l'Allemagne plus de 42%, même si, évidemment, avec ses 10 milliards d'euros d'investissement, l'Allemagne reste très largement devant la France. Au bilan, on a l'impression que, finalement, cette Union européenne, elle est un peu à la traîne dans cette transition énergétique.
Oui, il faut nuancer.
Vous allez me dire que je suis dur, oui, bien sûr.
Il faut nuancer. D'abord, je ne valide pas votre 50% de réduction des D'accord. investissements au plan mondial, pas du tout.
2015 par rapport à 2014.
Non, je valide absolument pas ça. C'est au contraire une augmentation par rapport à 2014. Donc non. Il y a plusieurs choses. D'abord, le prix des technologies s'effondre. Mais s'effondre, c'est-à-dire pour le solaire, ça a été divisé par 4, certains disent 5, depuis 2008. Pour l'éolien, on a baissé de 25 à 35% selon les régions, etc. Le prix du kilowattheure. Donc, on a un effondrement, mais c'est aussi le prix des investissements.
D'accord.
À partir de là, si vous en faites 4 fois plus, mais que le prix a été divisé par 4, vous avez juste le même niveau d'investissement. Mais vous en installez 4 fois plus. Donc, faut quand même regarder les chiffres quand ils sont exprimés en dollars ou en euros. Faut les regarder avec prudence et voir ce qu'il y a derrière, parce que ça peut s'accompagner d'une augmentation des créations de centrales et de puissance. Donc, faut quand même être prudent avec les chiffres d'investissement. Ensuite, alors c'est vrai qu'en Europe, on freine en général. On freine moins en Allemagne que partout ailleurs. On a freiné par rapport aux années qui ont suivi l'accord 3x20, où on a fait jusqu'à 7000 mégawatts de solaire par an en Allemagne, trois années de suite. On a fait des chiffres comparables en Italie et en Espagne pendant un an ou deux ans en Italie. Bon, et puis on a freiné beaucoup. Aujourd'hui, on fait presque rien en Espagne, on fait très peu en Italie. En France, France, on est passé par très très peu, puis on est remonté là à 1000 mégawatts par an.
Pourquoi on fait moins? Parce que le pétrole est beaucoup moins cher?
Alors non, ça n'a rien à voir. On a commencé à faire moins avant la baisse des prix du pétrole. Non, on fait moins parce que on a un système qui n'est pas en forte croissance. On peut même dire qu'il est à peu près stable en ce qui concerne la consommation d'électricité. Plus ou moins stable, hein. Enfin, il croît pas très vite. Et puis, il est rempli d'installations qui ne demandent qu'à tourner avec des gens qui les possèdent et qui voudraient bien faire tourner leurs installations pour les rentabiliser et rembourser leurs investissements. Donc, on ajoute à ça des renouvelables. C'est évident que ça provoque des tensions chez les existants qui ont des centrales qui étaient construites pour tourner des 2000 heures ou 3000 heures et qui tournent 1000 heures. Donc, ils sont pas contents. Donc, ça, il y a une difficulté là. Puis alors, surtout, on a quand même, on en a fait beaucoup au moment où c'était le plus cher. Ça a provoqué un traumatisme. Les gens se sont dit, mais c'est de la folie, il faut arrêter. Hein. Ça a été le moratoire sur le solaire en France. Partout, il y a eu des levées de boucliers. C'est vrai qu'on sait, l'Allemagne a payé cher pour son équipement solaire. Ses 20 premiers 1000 mégawatts lui coûtent encore très cher, puisque tous les ans on paye. Donc, ça fait partie du prix de l'électricité en Allemagne pour les familles. Donc, ça a provoqué chez les hommes politiques un certain traumatisme. Donc, on a beaucoup réduit la voilure. Mmh. Et maintenant, il faut que ces mêmes hommes politiques réalisent quand même que les coûts ont considérablement baissé depuis. Alors, ils commencent à s'en apercevoir et ils remettent un peu la barre un peu plus haut parce qu'ils s'aperçoivent que voilà, les mégawatts qu'on achetait, les mégawattheures qu'on achetait 400 euros il y a 6 ans, ils coûtent aujourd'hui 80 euros en France, 195 en Allemagne et 70 dans le sud-est, donc dans le sud-ouest. Donc voilà, il y a un changement, mais ça change tellement vite. Ça change tellement vite. Nous, on a du mal à suivre. Tout le monde, nos rapports, à peine ils paraissent, déjà ils sont dépassés. Je veux dire, c'est terrible. Ça va tellement vite qu'on a toujours un mal de vraiment à suivre la baisse des coûts. Et les hommes politiques ont du mal à réaliser. Donc, tout à coup, ils réalisent 2 ans après que c'est trop cher. Et puis 3 ans après, quand le prix s'est effondré, ils commencent à réaliser que le prix s'est effondré et que ça vaut le coup d'en faire.
Déjà que le temps politique est
par ailleurs.
François Baffoil.
Oui, et on est pris un peu dans une contradiction qui consiste à dire que s'il n'y a pas effectivement d'investissement assez renouvelable, dont quand même certaines technologies ne sont pas matures, comme on dit, ne sont pas achevées, s'il n'y a plus de subsides, d'aides publiques, les tarifs, les garanties que la puissance publique offre aux investisseurs, où va-t-on aller? Les investisseurs ne peuvent pas, par eux-mêmes, finalement, investir ce champ s'ils ne sont pas soutenus. Ça, c'est le premier point.
Il faudra revenir là-dessus.
Mais je reviens sur un point que vous avez souligné qui est extrêmement important, c'est que dans certains cas, et je pense à l'éolien, il y a une surcapacité. Et c'est cette surcapacité qui est pénalisée par le fait que les réseaux sont manquants, puisqu'on sait que les lieux de production ne sont pas les lieux de consommation. Et deuxièmement, si on prend le cas de l'Allemagne, par exemple, il y a une surcapacité dans le cas du Brandebourg, qui est la région de Berlin, qui est la région Est, et qui, pour justement se délester, le fait sur les voisins polonais et les voisins tchèques, qui eux hurlent, puisqu'effectivement, l'électricité qui est vendu l'est à un tarif beaucoup moins élevé que le leur. Mmh. Et là, il y a un gros problème.
Alors, parlons peut-être justement de l'éolien, Cédric Philibert, et je me tourne vers vous. Je parle sous votre contrôle, mais en gros, je comprends qu'en France, vous nous parlez de surcapacité, mais j'ai compris qu'en France, il y a plutôt un retard dans le secteur de l'éolien. Il y a une augmentation, c'est vrai, de 10,7%. Je parle sous votre contrôle. Je ne sais pas si le chiffre est correct. C'est celui que j'ai trouvé hier, en 2015, c'est-à-dire 10 300 mégawatts, et on est quand même loin de l'objectif fixé qui est de 19 000 mégawatts. Watts d'ici 2020, c'est correct ?
Oui, tout à fait.
D'accord. Les professionnels du secteur nous disent qu'en gros, ils vont péniblement arriver à 15 000 mégawatts d'ici 4 ans. Donc on est en retard.
On est en retard et la France est en retard sur son objectif. C'est un des 3 pays européens qui est en retard sur les objectifs signés pour 2020 en matière d'énergie renouvelable.
Pourquoi ce retard ?
Oh, je pense qu'il y a un ensemble de causes. On a démantelé des politiques, on a eu des coups des politiques de stop and go, donc ça prend longtemps pour retrouver la confiance des investisseurs. C'est vrai qu'on a une énergie avec des centrales nucléaires amorties qui apparaît pas chère, donc c'est très bien. On se dit, mais pourquoi on va accepter au début surtout de payer plus cher pour des énergies renouvelables? On ne voit pas que ces centrales nucléaires vont quand même pas durer indéfiniment, on va les prolonger de 10 ans ou 20 ans, et puis après on fera quoi? Est-ce qu'on va en reconstruire autant qu'on en a aujourd'hui, je ne le crois pas. Il y en aura probablement moins malgré tout, et il faudra quand même compléter avec beaucoup de solaire et de vent. On a des des oppositions locales qui sont parfois assez bien organisées, assez bien structurées, et qui jouent sur des peurs qui sont assez irrationnelles, mais voilà, quand on les alimente bien, quand on jette de la mauvaise information sur des braises, et ben on finit par avoir une flambée. Donc voilà, on a
et en
on
même
a,
temps on a le droit de défendre ses territoires, Cédric Philibert.
Ah, on a le droit de défendre ses territoires.
Chacun ses positions.
Non, mais on a le droit de défendre ses territoires, mais il faut aussi se poser la question de savoir avec quoi on va s'éclairer et se chauffer demain. Et tout compte fait, et quand on regarde tous les avantages et les inconvénients, les renouvelables sont clairement dans le dessus du panier énergétique dont on aura besoin.
J'entends bien. Ouais. François Baffol.
Oui, moi je voudrais insister sur, vous l'avez traité un peu quand même cavalièrement, justement ce que l'on appelle l'acceptabilité sociale. On a travaillé dans l'équipe justement, puisqu'on sort un ouvrage sur l'éolien, qui est la question de l'acceptabilité. Et on s'est penché sur 5 pays, l'Écosse, enfin 5 régions, l'Écosse, le Finistère, le Brandebourg, le Nord-Hollande en Hollande et la région de Poméranie occidentale. Et on a essayé de comprendre finalement c'est quoi l'acceptabilité sociale par rapport à l'éolien. Et donc c'est extrêmement important. Un chiffre qui est clair. En Europe, c'est environ 5 ans le temps de la procédure pour du projet à son installation. D'accord? Donc il y a des procédures. Il y a des procédures à la disposition des acteurs. Je concède effectivement avec vous qu'on sait en France en faire plus qu'usage. En Allemagne, c'est 2-3 ans. En France, c'est 7 ans. Dans le cas que j'ai analysé, dont je rapporte le cas dans l'ouvrage, 12 ans. Donc il y a un problème effectivement propre à chaque pays qui est l'aspect juridique et procédurier et la capacité effectivement, ben, on est bien au courant avec ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, à la capacité effectivement de certains groupes d'user toutes les ressources juridiques pour parvenir à leurs propres fins. Donc ça c'est extrêmement important, mais la question de l'acceptabilité sociale de l'éolien, parce que ça fait pas un problème pour la biomasse, ça c'est les conflits d'usage ou pour le solaire, il y a pas de problème, on le voit pas, ça abîme pas, ça a la vue, le truc, etc. Donc c'est le problème de l'éolien, et c'est extrêmement important à mon avis de se pencher sur cette question de l'acceptabilité sociale, car c'est la question de la démocratie locale, la question de la participation. Et je voudrais insister sur un point qu'on n'a peut-être pas soulevé. L'autre côté positif, mais pas français, mais qu'on retrouve en Allemagne, qu'on retrouve en Grande-Bretagne, qu'on retrouve en Hollande, c'est la capacité de certaines municipalités ou dans le rural de certaines communes de mettre en place des innovations financières, institutionnelles, qui joignent l'investisseur, la collectivité locale, les citoyens, la banque, autour de projets où ils se partagent finalement cette charge qui devient un bénéfice. Dans le cas du South Lanarkshire, ma collègue Rachel Guyet a montré que l'investisseur, lui, il a dérivé une partie de son profit pour une organisation sociale dans le village. En France, on est terriblement en retard. On a toujours la démocratie à la bouche et les valeurs à la bouche. Sauf que localement, à part Began, ces exemples locaux dont on nous rabâche les oreilles, il n'y a pas, et la puissance publique pour le coup, et la banque non plus, ne font pas leur travail, de partager finalement. Qu'est-ce qui poussait finalement ces transitions énergétiques, et qu'est-ce qui rendait finalement l'éolien tellement attractif, au-delà du fait que ça correspondait à Kyoto il y a 20 ans, etc. C'est le fait qu'on se disait, il va peut-être y avoir une notion d'autonomie, une notion de partage, une notion d'inclusion. Eh ben, en France, on est très loin, et il faut dire quand même que l'opérateur central, qui perd tellement de plumes depuis quelques années dans la question énergétique, ne participe pas autant que ce que l'on voit en Allemagne ou en Grande-Bretagne.
Cédric Philibert, de l'acceptabilité
sociale. Je souscris entièrement. Je pense que les pouvoirs publics français sont quand même conscient du problème, puisqu'il y a eu une tentative de mettre dans la loi de transition énergétique l'obligation d'ouvrir le capital de ces installations aux gens du coin, et je pense que ça aurait d'ailleurs été une mauvaise idée, parce qu'en faire une obligation, c'était pas la bonne façon de faire. Mais c'est vrai que si on compare avec la situation au Danemark, par exemple, où il y a des éoliennes un peu partout, on s'aperçoit que la plupart de ces éoliennes sont propriété des gens du coin. Voilà, ils ont investi, c'est leur plan de retraite, voilà. Ils vendent l'électricité au réseau national.
Et quand c'est son éolienne, c'est pas pareil. Et la démocratie en sort, évidemment, on la regarde pas de la même façon. Est-ce que vous pensez qu'on va tirer les conclusions, ensuite on parlera de l'Allemagne, mais on va tirer les conclusions de tout ça. Il y a de nouvelles orientations qui devraient être prises dans les prochains jours pour relancer la stratégie bas carbone en France. Et c'est Golan Royal qui a annoncé ça il y a quelques jours, qui d'ailleurs lors de son déplacement justement Marwaz Azat. On nous dit qu'il y a des décrets qui devraient tomber très très vite, là, d'ici la fin du mois de février. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Oh là, vous levez les yeux au ciel, François Bafoual.
Non, non, mais on est quand même habitué en France. Heureusement qu'on ne me voit pas. On est habitué quand même en France à des déclarations qui ne sont pas suivies des faits ou des faits qui contredisent les déclarations. Donc moi, je suis très sceptique.
Elle a fait dans son message le jour de Ouarzazate, il y avait le symposium national du syndicat des énergies renouvelables. Elle a fait une communication vidéo où elle a listé effectivement un nombre de décrets qui sont sur le point de paraître. Je n'en ai pas la liste de mémoire. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se faire. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas.
Je
voudrais pas être trop provocateur, mais il faut quand même se souvenir qu'il y a un an et demi, l'ADEME, qui est l'agence à la disposition du ministère de l'énergie, de l'environnement, a produit un ouvrage à la demande même de Madame Royal, où il était question et clairement dit que l'on peut passer au renouvelable à 100% d'ici 2050, mais qu'effectivement, il faudra quintupler le prix de la facture.
Non, pas du tout.
Ah bah si, il faudra. Ah non, le coût de l'électricité coûtera extrêmement cher.
Absolument pas. Vous n'avez pas bien lu les trucs.
Chacun son tour. François Bafoual, je vous donne la parole.
Le rapport de l'ADEME,
c'est
ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Non, mais ça coûtera extrêmement cher de passer à 100%. Évidemment, puisqu'il faudra effectivement mettre en cause la question du nucléaire.
C'est 119 contre 117 euros le mégawattheure. Non.
Mais l'investissement pour sortir du nucléaire d'un côté et pour faire de 100% les renouvelables coûteront extrêmement cher. Non, ce que je veux dire,
c'est que
vous n'avez pas lu
les chiffres.
Pas
de bataille. Ce que je veux dire simplement, c'est que le rapport a été enterré. Et qu'il aura fallu effectivement attendre Mediapart pour le lire. Voilà.
Le rapport a
été publié. Il est en ligne sur le site de l'ADEME. Il est traduit en anglais. Ils sont venus le présenter à l'AIE. Ce rapport n'est pas enterré. Premièrement, il n'était pas tout à fait fini quand Mediapart l'a publié, il y avait encore un certain nombre d'observations. Moi, j'étais au comité scientifique de cette étude où j'en présentais l'AIE. Donc, non. Cette étude ne donne pas un itinéraire pour aller vers 100% de renouvelables. Cette étude compare des images d'une France future en 2050 ou au-delà, avec des mix énergétiques différents. Elle dit pas comment, des mix électriques différents. Elle dit pas comment on fait pour y arriver. Donc on peut pas y lire que telle trajectoire est plus coûteuse qu'une autre. Le prix est exprimé en euros par mégawattheure pour faire l'électricité. Et un des enseignements frappants de cette étude est que le 100% renouvelable dans cette étude, après on peut discuter, savoir si l'étude a raison ou si elle rate des choses, mais le point frappant, c'est que le prix du kilowattheure dans un monde 100% renouvelable est pratiquement le même que le prix du kilowattheure dans un monde dans une France avec, que je dise pas de bêtises, 50 ou 40% de nucléaire et le reste en renouvelable. Avec un peu de fossiles. Le moins cher d'ailleurs, c'est 80% renouvelable.
De toute façon, on peut pas dire grand chose de ces chiffres parce que par exemple, est-ce que dans vos calculs, la question du prix du démantèlement des centrales nucléaires est prise en compte? La réponse est non parce qu'on ne sait pas combien vaut un démantèlement en réalité de centrales nucléaires. Réponse est non, c'est vrai, Philibert.
Attendez. La réponse, les gens d'EDF vous diront que oui, parce qu'il y a un provisionnement etc. Donc voilà, moi je vous dis ce qu'on dit.
Moi je suis pas un spécialiste, mais les gens qui s'intéressent à cette question nous disent qu'en gros, on ne sait pas le chiffrer.
Mais au fond, si j'ose dire, peu importe, ce que je veux dire, c'est que cette étude suggère qu'une France qui aurait 100% de renouvelables, donc beaucoup de renouvelables variables, et deux, ça coûte à peu près le même prix que les autres options. Voilà, le moins cher étant une France avec 80% de renouvelables.
On va faire une toute petite pause.
Dans l'électricité.
Cédric Philibert, François Bafoual, on va écouter Angela Merkel. L'Allemagne a été l'une des premières en Europe, la première à décider de sortir du nucléaire. On était en 2011, la catastrophe de Fukushima était passée par là.
Wir haben, um uns darauf vorzubereiten, eine Ethikkommission berufen als Bundesregierung.
Le gouvernement a fait appel à une commission d'éthique et les résultats du travail de cette commission nous ont indiqué vers quelle direction aller. Nous avons donc décidé d'abandonner progressivement l'énergie nucléaire avant la fin de l'année 2022. Ce chemin sera un défi énorme à relever pour l'Allemagne, mais il apportera également de grandes opportunités aux générations futures. Nous pensons que notre pays peut être à l'avant-garde dans la production d'énergie renouvelable.
Voilà, Cédric Bafoual, c'est évidemment sortir du nucléaire, mais c'est aussi s'engager, se positionner sur le marché du renouvelable. 5 ans après, quel bilan est-ce qu'on peut en faire ?
Ben, quand on discute avec les partenaires allemands, on est complètement étonné, surpris par leur inquiétude et le fait qu'il n'y a aucune fiche de route, ligne de route. Il n'y a aucune stratégie pour aller vers ce que Mme Merkel a proposé il y a 3 ans. Il y a des coûts qui enflent, il y a une décision effectivement d'arrêter la production charbonnière pour répondre, effectivement les raisons sont tout à fait justifiées, pour répondre aux ambitions écologiques et de respect des engagements climatiques tout à fait justifiés par ailleurs, mais du coup ça aboutit à des dettes des grands opérateurs que sont RWE, que sont E.ON, une dette qui est considérable. Ils affichent plus de 2 milliards, c'était le dernier chiffre que je lisais à peu près, 2 milliards, que ce soit RWE, que ce soit E.ON, un peu moins Vattenfall. Et donc, il n'y a aucune stratégie, aucune voie précisément balisée pour aller à l'objectif qui a été fixé il y a 3 ans.
Pas de politique claire. Cédric Philibert.
Non, je ne crois pas que du tout que ce soit le cas. Je pense que vous mélangez deux choses qui n'ont rien à voir. Vous mélangez les dettes des opérateurs historiques donc, qui ont effectivement un certain nombre de stranded assets, c'est-à-dire d'investissements échoués qui sont difficiles aujourd'hui à rentabiliser. On a dans toute l'Europe d'ailleurs un excès de centrales à gaz dont un certain nombre sont mises sous cocon. On a un excès de centrales à charbon, etc. Donc ça, c'est une première chose. C'est la question des grandes utilités, des grandes compagnies d'électricité qui fonctionnaient essentiellement sur des centrales thermiques, donc qui souffrent dans la transition, ça c'est une chose. Dire qu'il n'y a pas de feuille de route en Allemagne, ça c'est une autre chose. C'est
alors,
une affirmation extrêmement hasardeuse.
Alors, quelle est la feuille de route ?
Il y en a plutôt de multiples. Il y a une politique qui consiste à continuer d'installer du solaire et de l'éolien, qui consiste à tirer des réseaux là où il en manque, qui consiste à faire de la recherche sur le stockage, qui consiste à penser à développer aussi le stockage par pompage hydraulique, qui renforce les interconnexions avec les pays voisins. Oui, bien sûr, il y a une politique de développement des énergies renouvelables. En Allemagne, il y a une politique d'économie d'énergie extrêmement efficace. C'est avec les Pays-Bas et les pays du Nord, un pays qui s'est doté d'une capacité à isoler thermiquement les bâtiments pour réduire les consommations aussi bien d'électricité que de combustibles fossiles dans les bâtiments, dans la rénovation. Nous en France, on a une bonne réglementation thermique pour le neuf, mais il ne se fait pas énormément de neuf. Il faut très longtemps pour renouveler complètement un parc. On a dans notre parc des bâtiments qui ont parfois plusieurs siècles. On est content de les avoir, mais voilà, c'est pour dire que c'est très lent à renouveler le parc, et donc il faut rénover une bonne partie de ce parc ancien. Et en France, on n'a pas pris la manière industrielle de le faire, que compris nos voisins allemands ou néerlandais.
Est-ce que cette énergie renouvelable, et je vous redonne la parole ensuite François Bafoual, et puis on ira du côté de l'Afrique du Sud ensuite, mais question extrêmement simple, Cédric Philibert, enfin peut-être pas si simple que ça, est-ce qu'aujourd'hui les énergies renouvelables en Allemagne sont économiquement rentables ?
Alors, elles sont en train de le devenir. Elles sont en train de le devenir assez rapidement. Ce qui se passe,
mais elles ne le sont pas encore.
Attendez. Si, elles le sont. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, tout ce qui est décarbonisé, c'est vrai aussi pour le nucléaire, c'est vrai aussi pour les économies d'énergie, c'est vrai pour les renouvelables, c'est au fond des investissements en capital. Mmh. Et puis derrière, il y a peu de dépenses de fonctionnement. Sur les marchés de l'électricité, on achète l'électricité à un prix qui reflète fondamentalement le coût marginal de fonctionnement, c'est-à-dire le prix du combustible. Aujourd'hui, si on se réfère au prix marginal de l'électricité en Europe, sachant qu'il y a eu un excès d'investissement, ben on a des prix extrêmement bas. Et en fait, personne ne peut rien construire aujourd'hui en Europe, ni des renouvelables, ni du nucléaire, ni des centrales thermiques, sur la seule base du coût marginal, c'est-à-dire des marchés de l'électricité. Donc c'est pour ça qu'il faut des politiques qui permettent d'investir avec des garanties pour les investisseurs qui sont d'autant plus importantes que l'investissement initial est important par rapport aux dépenses récurrentes. Maintenant, quand on compare la facture d'une énergie par rapport à une autre, il faut comparer l'ensemble des coûts sur la vie d'une centrale. Et là, on s'aperçoit que les énergies renouvelables aujourd'hui sont arrivées dans le même panier que le nucléaire ou que les énergies fossiles.
François Bafoual, et puis ensuite on prendra la direction de Johannesburg pour retrouver Olivier Grandbonnet.
Je vous concède évidemment qu'il y a énormément de recherches sur les renouvelables, qu'il y a beaucoup d'argent qui sont dévolus aux renouvelables. Évidemment, ça je vous le concède. Prenons par exemple, enfin, quand je dis qu'il n'y a pas de stratégie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu la décision de sortir du nucléaire, qui n'a pas été accompagnée d'une feuille de route précise et qui n'est toujours pas là aujourd'hui, sur l'abandon du charbon, sur le type de renouvelable qu'il fallait faire. Je prends exemple exactement l'enquête qu'on a conduite dans le Brandebourg. Encore une fois, c'est cette région qui est autour de Berlin, hein, où il y a partout des renouvelables. Mais c'est aussi des éoliennes. Et c'est aussi la région où vous avez, c'est le deuxième poumon du point de vue minier, vous aviez la Rhénanie-Nord-Westphalie, et puis vous avez toute cette région de la Lusace, qui a connu une restructuration depuis 20 ans, et dont les autorités politiques avaient décidé de poursuivre. Ce sont une coalition Die Linke, ex-communiste gauche, et puis SPD, qui avait décidé de poursuivre. Et avec cette prolifération, effectivement, des renouvelables, on a une contradiction qu'on voit se répéter en de nombreux endroits, dans de nombreux lenders en Allemagne, entre une tradition effectivement charbonnière, une exploitation charbonnière d'un côté, et puis la nécessité de passer aux éoliennes avec des conflits, j'en reviens à la question de l'acceptabilité, avec des conflits incessants, même si vous ajouterez, et vous aurez raison, qu'il y a encore un très large soutien aux renouvelables dans la population allemande et notamment pour les éoliennes. Mais ne dites pas qu'il y a une stratégie claire et précise pour les acteurs de l'énergie en Allemagne, il n'y en a pas.
On entend très bien votre position, l'un et l'autre. On va prendre quand même la direction de l'Afrique du Sud, si vous voulez bien. On va retrouver Olivier Grandbonnet. Alors l'Afrique du Sud, c'est parmi l'un des 15 plus gros pollueurs de la planète. Elle tire près de 90% de son électricité du charbon. Le pays possède des ressources très importantes, puisque l'Afrique du Sud était classée en 2014 au 7e rang mondial des producteurs de charbon. C'est à peu près 3% de la production mondiale. Donc, à ce rythme-là, on a encore des réserves pour au moins un siècle. Bonjour, Olivier Grandbonnet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Johannesburg. Vous êtes chef du projet Infrastructure et Changement Climatique à Johannesburg pour l'Agence Française de Développement. Alors dans ce paysage charbonné, on a aussi du solaire, de l'éolien, de la géothermie. On nous dit, alors évidemment, il faut faire très, très attention avec les chiffres. Et puis Cédric Philibert nous disait avant de commencer cette émission, ça va très très vite, mais ça représente moins de 1%, 0,08%. Comment le pays peut utiliser moins de charbon pour développer le renouvelable et comment l'AFD, l'Agence française de développement, peut aider dans cette transition?
Alors effectivement, comme vous le précisiez, le parc de production d'électricité en Afrique du Sud aujourd'hui, c'est 90% de charbon. C'est à peu près un peu plus de 40 000 mégawatts de capacité installée. Et le gouvernement s'est doté en 2010 d'une stratégie qui vise à doubler ce parc installé d'ici 2030. Et parmi ce doublement, il faut que 40% soit à base d'énergie renouvelable. Donc ça fait à peu près 18 000 mégawatts d'énergie renouvelable installées d'ici 2030. Et pour ça, ils sont dotés d'un programme qui est à la fois ambitieux et qui est un grand succès, qui s'appelle le REIPPP, qui vise à mettre en place des fenêtres d'appel d'offres qui ouvrent aux producteurs d'énergie renouvelable privée des appels d'offres et la possibilité de soumettre des projets. La production d'électricité produite par ces projets étant achetée et garantie par l'État sud-africain. Et ce programme a été lancé en août 2011 et aujourd'hui on est début 2016 et il y a déjà 6200 mégawatts de projets qui ont signé des contrats avec le gouvernement sud-africain. Et il y a à peu près 2000 mégawatts qui sont déjà en service.
Mais qui est-ce qui paye, Olivier Grandbonnet? Est-ce que c'est seulement l'État ou est-ce qu'on a aussi des acteurs privés qui commencent à rentrer dans la danse?
Alors, l'acheteur unique d'électricité en Afrique du Sud, c'est Eskom, donc c'est l'équivalent d'EDF pour l'Afrique du Sud. Mais les producteurs, c'est des producteurs privés. Ces appels d'offres sont ouverts à des producteurs privés. Donc les privés sont entrés dans la danse parce qu'ils ont la garantie, l'assurance que l'État va leur acheter l'électricité produite au tarif auquel il le propose. L'avantage de ce programme aussi, c'est que ça permet en fait de stimuler la concurrence. Et ça fait très fortement écho à ce qui a été dit précédemment dans l'émission, puisque entre la première fenêtre d'appel d'offres qui a été lancée vers 2012 et la dernière qui a été lancée en fin d'année dernière, le tarif de l'éolien a baissé de 70%, tarif du solaire a baissé de 50%. Donc en plus, il y a la recherche du meilleur tarif de production de l'électricité, et donc si possible une hausse des tarifs d'achat d'électricité qui est la plus faible possible pour le consommateur final.
Et est-ce que dans cette dynamique, Olivier Grandvoinet, on voit aussi les banques sud-africaines jouer leur rôle? Parce qu'il y a une des critiques que l'on fait beaucoup en Afrique du Sud, c'est sur le système financier, sur le système bancaire, c'est de dire que finalement, les banques font beaucoup de crédit à la consommation. D'ailleurs, il y a un véritable risque de crise financière qui inquiète beaucoup en Afrique du Sud. Est-ce qu'elle, là aussi, est-ce qu'elle joue le jeu et est-ce qu'elle commence à soutenir des projets?
Tout à fait. Donc dans le cadre de ces appels d'offres, qui sont des gros projets, hein, c'est des projets qui font 50 à 100 mégawatts unitairement, initialement, on voit que sur les premiers appels d'offres, les premières fenêtres, c'était vraiment financé par le secteur public. Donc des agences comme l'Agence française de développement ou des banques publiques de développement de l'Afrique du Sud, des BSA. Et puis on se rend compte qu'au fur et à mesure, en fait, le secteur privé, les banques privées, enfin les banques commerciales, se sont rendues compte de l'intérêt financier à financer ce genre de projet. Et aujourd'hui, sur les derniers appels d'offres, c'est uniquement financé par le système bancaire local. Donc ça, c'est pour les gros projets. Je voudrais peut-être rajouter aussi également ce qu'on voit qui est très intéressant en Afrique du Sud, au-delà de ce côté du haut vers le bas, donc l'État prescripteur qui souhaitent le développement de nouveaux projets. On a aussi, on voit l'émergence d'une approche du bas vers le haut. Donc cette fois-ci, des entreprises qui souhaitent installer, donc devenir plus vertes, et donc installer des solutions de production d'énergie renouvelable dans leur entreprise et pour limiter leur dépendance à l'électricité fournie par Eskom, dont les tarifs vont en augmentant très régulièrement et qui font aussi parfois face à des coupures d'électricité. Et donc on s'est rendu compte au cours des 3-4 dernières années d'un très fort développement et d'une très forte demande de la part de ces entreprises pour installer ce genre de solution. Mmh. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les banques initialement n'avaient pas du tout conscience à la fois du potentiel en termes de financement et puis également des risques faibles qui sont liés à ce type de projet parce que les technologies sont prématures. Et on s'est rendu compte depuis 3 ans que les banques ont désormais un très fort appétit et ça nous a permis AFD de financer au travers de ces banques 120 millions d'euros de projets au travers de 120 petits projets dans 120 entreprises différentes.
Je vais faire réagir mes invités ici en plateau. Quand on entend Olivier Grandvoinet, on se dit que finalement, on a là un modèle plutôt efficace, plutôt satisfaisant, avec un État qui incite et puis finalement toute cette gros système renouvelable est parti. C'est un petit peu le sentiment qu'on a, Cédric Philibert, en l'entendant. Vous connaissez l'un et l'autre, hein, l'Afrique du Sud?
Oui, ben ça effectivement.
En quelques mots, parce qu'on arrive au terme de l'émission, mais en guise de conclusion.
Ben ça marche bien, il y a beaucoup à faire. Le système Eskom est un peu vétuste, la base installée est vétuste. Alors il y a deux grosses centrales à charbon neuves qui vont être mises en service, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont devoir être mises hors service, parce qu'elles sont hors service, si j'ose dire. La vraie raison d'ailleurs qui a poussé les entreprises et les particuliers à s'équiper de renouvelables, mais parfois aussi de moteurs diesel en complément, c'est plutôt les coupures qui ont été extrêmement fréquentes ces dernières années, les coupures de courant, qui sont un véritable handicap pour la vie de tous les jours et pour l'économie. Et ça, c'est parce que le prix d'Eskom, en fait, n'est pas très élevé. Il est même plutôt trop bas, justement, pour répondre aux besoins d'investissement. Voilà. Donc, aujourd'hui, les renouvelables se développent rapidement et on voit que dans un pays en développement, mais c'est pareil, si j'ose dire, en Chine ou ailleurs, on voit que dans les pays en développement aujourd'hui, c'est devenu une solution économique de référence pour développer rapidement la production d'électricité.
François Bafoual, le modèle sud-africain, c'est un bon modèle?
C'est un bon modèle pour l'Afrique du Sud. Enfin, je veux dire, par là, c'est un système fermé en ce sens qu'elle n'est pas contraint, et je fais référence à l'Union européenne, elle n'est pas soumise aux contraintes qui sont propres à l'Union européenne, qui impose effectivement la concurrence dans le marché et qui coûte effectivement extrêmement cher aux grands opérateurs, qu'ils soient allemands, mais qui, par exemple, surtout français, qui est obligé d'ouvrir son marché et de payer plus cher l'électricité qu'il ne la vend et d'accepter effectivement des partenaires. On voit bien quotidien, effectivement, l'EDF et le problème auquel se trouve confronté maintenant EDF avec cette pression, alors là, pour le coup, exercée par le haut et puis par les nouveaux entrants sur le système, c'est que les municipalités, au terme des concessions qu'il y a liées à l'opérateur, dénoncent leur contrat et EDF, effectivement, à la fois est obligé de respecter les règles, les engagements climatiques et de réduire ses participations, sinon les annuler en ce qui concerne les prises de participation extérieure et la production de CO2, et sur le marché intérieur, de faire face effectivement à une concurrence.
Merci à tous les trois. Olivier Grandvoinet qui était en direct avec nous depuis Johannesburg. Merci à vous François Bafoual et un grand merci également à vous Cédric Philibert. C'était animé comme discussion, hein. Les batailles de l'énergie, c'est une véritable bataille. Hein.
Le sujet est intéressant et parfois complexe.
Il est conflictuel.
Absolument, on s'en rend compte et je pense qu'il le sera aussi demain. Puisqu'on parlera du charbon, on va poursuivre évidemment notre série consacrée aux énergies.